Europe Soir Weekend, Christophe Pallais.
Jusqu'à 19h, ça fait débat avec face à face ce soir Sabrina Seybaï, députée NUPES pour Europe Écologie Les Verts. Vous êtes sur la 4e circonscription des Hauts-de-Seine. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs.
Et co-secrétaire régionale Europe Écologie Les Verts d'Île-de-France.
Absolument. Hein.
Et puis Eduardo Riancipel, porte-parole de Territoire de Progrès, bonsoir.
Bonsoir.
Pour la majorité présidentielle, je vais vous demander, si vous le voulez bien, d'être court et percutant, parce qu'on a beaucoup de sujets à traiter d'ici 19h. Un incontournable pour commencer, le président de la République qui ne s'était pas exprimé en interview depuis sa réélection. Qu'est-ce que vous avez retenu de son interview jeudi ? Qui veut commencer ? La parole à Eduardo Riancipel.
Une discussion qui était intéressante, claire. Je pense que le président de la République a confirmé quel était son état d'esprit. Un état d'esprit où il voulait construire les compromis nécessaires pour la France, redonner de la perspective sur son action sur le moment présent, rappeler un certain nombre de fondamentaux aussi s'agissant de la guerre en Ukraine. Je pense que c'était une bonne interview de 14 juillet.
Sur une guerre qui va durer. Hein.
Oui, hélas. Et la détermination de la France et de l'Europe sont totales. Il faut continuer de soutenir l'Ukraine. Il faut tout faire pour que le conflit s'arrête et qu'une situation de non-emploi des armes arrive au plus tôt. Mais nous savons que c'est une question de long terme. Et je crois que le président français, comme l'ensemble des Européens, sont prêts à affronter cette situation.
Sabrina Seybaï, vous êtes satisfaite aussi d'avoir le cap pour les 5 ans à venir ?
Moi, je le dirais pas du tout comme ça. Emmanuel Macron nous avait promis en fait qu'il avait entendu et compris les Français au moment de l'élection présidentielle. Et on se rend compte que lors de ce discours, en fait, il nous ressort les vieilles recettes avec la retraite à 65 ans alors qu'il y a une forte opposition dans le pays, le nucléaire comme énergie d'avenir alors qu'on sait tous qu'en fait, il faut en sortir. Et bien évidemment, cette notion de sobriété qu'il semble découvrir alors qu'il y a quelques mois de cela, il traitait les écologistes d'amiche lorsqu'il parlait de sobriété. Donc tout ça nous fait malheureusement pas rire du tout parce qu'on est, on voit bien d'ailleurs les incendies qui ravagent en ce moment la Gironde. Donc on en pourra peut-être en parler ensuite. Mais voilà, il y a des vraies préoccupations, il y a l'urgence climatique et on a le sentiment que ce président ne comprend pas les enjeux en fait, auxquels sont confrontés les Français aujourd'hui.
L'objectif du plein emploi, c'est pourtant plutôt vertueux.
Oui. Mais sauf qu'il évite sciemment et de manière assez habile, je dois le dire, la question de la revalorisation des salaires, puisqu'il n'en parle pas. Et on parle d'un SMIC à 1500 euros. Il nous explique avec son calcul d'apothicaire qu'avec la prime d'activité, on monte à 1475. Or, on le sait très bien, les primes ne sont pas incluses au moment du calcul des retraites. Et nous, ce qu'on veut, c'est vivre dignement lorsqu'on le travaille, mais aussi vivre dignement quand on est à la retraite.
Eduardo Riancipel, vous avez quand même senti qu'entre la réforme du marché du travail et la retraite à 65 ans, le chef de l'État a fait immanquablement des clins d'œil plutôt aux Républicains, à la droite.
Je crois que le président de la République est clair sur les objectifs et le sens des réformes. S'agissant des retraites, il faut qu'elles soient justes. Je crois que la Première ministre s'est exprimée avec beaucoup de clarté lors de sa déclaration de politique générale. Elle a rappelé quelque chose qui me paraît essentiel, c'est que notamment pour les gens qui ont commencé à travailler tôt, donc toutes les carrières longues et ceux qui ont de la pénibilité dans leur travail, ils ne seront pas soumis aux mêmes règles. Donc, si vous voulez, nous voulons une règle et une réforme qui puisse s'appliquer à toutes les catégories de la population. Ceux qui ont commencé à travailler tôt n'iront pas jusqu'à 65 ans. J'ai surtout entendu Olivier Dussopt, qui est le président aussi de ma formation politique Territoire de Progrès, ministre du Travail qui est en charge de la question et la réforme des retraites, dire très clairement, il n'y a pas de tabou. On ne met pas un chiffre sur la table, on discute avec tout le monde, on veut co-construire cette réforme. Et je pense que si on veut avoir une vraie réforme des retraites utile pour les Français, qui soit fidèle à notre modèle de solidarité par répartition, si on veut qu'elle soit juste, qu'elle soit adaptée au monde de demain et qu'elle réponde aux besoins de protection des Français, il faut qu'elle soit le plus largement possible discutée avec toutes les forces sociales du pays. Les parlementaires, bien sûr, le moment venu, mais d'abord les partenaires sociaux. Je crois à la démocratie sociale. Je suis un socialiste et un social-démocrate. Et à Territoire de Progrès, nous croyons à la démocratie sociale. Et moi, je peux te dire une chose. Je connais bien Olivier Dussopt. Je peux vous dire que son état d'esprit, c'est celui du dialogue, de construire avec les syndicats, avec le patronat, avec les Français et avec les parlementaires. C'est très important. Et je crois que les Français pourront juger en acte. Et j'espère que Madame la députée pourra aussi juger comme parlementaire que sa parole comptera, que la parole des parlementaires comptera dans la discussion et sur la réforme des retraites. Si on veut réussir, C'est ça qu'il faut faire. Il faut unir le pays autour d'une réforme qui fasse sens.
Sabrina Sebaillon, on vous a vu faire une petite moue. Vous n'avez pas l'air d'y croire à cette recherche du consensus et l'ouverture de discussions.
Bah, en fait, il a quand même gouverné 5 ans seul, y compris la crise sanitaire et le Conseil de défense. Oui, bah, écoutez, le premier discours qu'il fait, il n'a pas l'air d'avoir changé. Il continue avec « il faut traverser la rue pour trouver un emploi
». Eh bah, tiens,
cette forme de mépris justement
vis-à-vis des Français. On va le réécouter, si vous voulez, puisque vous en parlez. On le réécoute. Traverser la rue, cette phrase d'Emmanuel Macron qui est réitérée donc des propos tenus il y a quelques mois. Hein.
Il n'y a pas aujourd'hui un endroit en France où les gens ne vous disent pas « j'ai besoin de travail, je cherche des gens pour travailler ».
6 entreprises sur 10.
Partout. Il m'est arrivé parfois dans ce jardin de dire qu'il fallait traverser la rue pour parler des restaurants qui sont en face.
Vous l'avez regretté ?
C'est encore plus vrai, pas du tout, mais c'est une vérité.
Voilà, comme ça, on est vraiment là dans le propos. Je vous laisse poursuivre, pardon.
Absolument. Donc, il continue, en fait, avec cette gouvernance, finalement, par le mépris des Français. Je trouve ça assez drôle de les entendre parler du compte pénibilité, en tout cas de la pénibilité au travail. Je rappelle quand même que c'est le gouvernement Macron qui l'a supprimé, hein, ce compte pénibilité pour les salariés. Donc, qu'ils le remettent en place, c'est une bonne chose. Il faut aller plus loin. Il faut que les gens puissent vivre dignement avec leur retraite. Il faut qu'ils puissent avoir un SMIC à la hauteur. Il faut qu'ils puissent avoir un salaire à la hauteur des tâches et du travail aujourd'hui qu'ils ont. Et quant à la question du dialogue, j'ai presque envie de vous dire, aujourd'hui, les Français ont parlé, les urnes ont parlé. Ils n'ont pas donné de majorité au président de la République au sein de l'Assemblée nationale, ce qui fait qu'il est obligé de dialoguer. Il est obligé de faire des consensus. Il est obligé de faire avec les forces qui sont aujourd'hui en présence au sein de l'hémicycle. Et je pense très sincèrement que si ce n'avait pas été ce résultat qui serait sorti des urnes, il aurait continué à gouverner de la même manière qu'il y a 5 ans.
Est-ce que c'était une bonne chose, Édouard Dorian-Sipel, d'appeler de nouveau les Français à traverser la rue pour retrouver de l'emploi ?
Je crois que si on veut...
Vous n'allez pas me dire le contraire.
Ben, je pense qu'il faut de la volonté pour chercher un travail. Ça, c'est la part qui relève de la responsabilité de l'individu. Mais il y a aussi, surtout, je crois, une responsabilité de la collectivité, donc de l'État et des pouvoirs publics pour créer les conditions de l'emploi. Hein ? Et je crois qu'en la matière, si on a un qui a fait que le chômage pèse dans notre pays, c'est Emmanuel Macron. Le chômage aujourd'hui, il est autour de 7,3% par rapport à la population active. Jamais le chômage n'a été aussi bas. Jamais. Il était à 9,4% quand il était aux commandes en 2017. Et puis aujourd'hui, il est à 7,3. Et l'objectif du président de la République, avec la première ministre, c'est d'aller vers le plein emploi. Donc on a déjà obtenu des résultats en diminuant de 2 points le chômage. Il faut aller encore plus loin. Et je crois que les questions des réformes de l'État, des réformes de la sécurité sociale, les réformes de notre État social... elles doivent apporter une meilleure protection, plus efficace, plus ciblée aussi pour les citoyens et les Français. Et pas du tout un moindre État. C'est pas on annule de la responsabilité. C'est pas le libéralisme. Voilà, j'ai envie de le dire très clairement. C'est un État fort. C'est bien entendu l'acceptation de l'économie de marché, mais sociale et régulée, comme l'a dit le président de la République. On croit à l'innovation, on croit à l'investissement, on croit aussi aux forces du travail. Je crois que oui, c'est vrai. Il y a une réalité politique nouvelle. Il n'y a pas de majorité absolue.
Je pense que c'est sur ce point-là.
Il y a une majorité relative et je trouve que c'est bien qu'on puisse trouver... On la prend comme telle. Il faut l'assumer comme telle et à partir de là, chercher les compromis pour passer les textes au service des Français. Et puis les Français jugeront. Je crois que... vous savez, majorité absolue, il n'y en a pas. Mais le propre d'une majorité absolue, c'est qu'en face, elle a souvent une opposition absolue. Alors peut-être aussi que nous n'aurons plus une opposition absolue. Une opposition plus disponible pour la discussion et le compromis. C'est en tout cas notre état d'esprit, celui de la disponibilité politique au travail maintenant.
Je vous propose de réécouter justement Emmanuel Macron sur sa vision de l'assurance chômage, parce que je pense que c'est sur ce point que vous êtes sans doute les plus distants.
S'ils peuvent trouver et aller vers un autre métier, je l'entends très bien. Si derrière la réponse c'est « je vais bénéficier de la solidarité nationale pour réfléchir à ma vie
oui. »,
j'ai du mal à l'entendre. Parce que cette solidarité nationale, c'est ceux qui bossent qui la paient.
Alors, profiter de la solidarité nationale. Comment vous avez réagi en entendant cette phrase, Sabrina Sebaillon ?
C'est vraiment honteux, en fait, vraiment d'entendre ça, d'entendre que finalement, ce sont vraiment des vieux discours qui sont rebâchés sur le fait que certains préfèrent ne pas aller travailler plutôt et toucher les ACEDIC ou toucher le RSA. Il y a peut-être une infime minorité de la population qui profite du système, mais dans l'autre, si on prenait l'autre arc à l'opposé, il y a les niches fiscales, il y a les grandes entreprises qui font du profit. Vraiment, je pense que de ce point de vue-là, on est vraiment très très loin de la question de la réforme justement du travail et du chômage. Moi je vous l'ai dit, il a esquivé savamment la question du salaire et donc de la revalorisation du salaire pour permettre justement aux gens d'aller retravailler et d'aller retrouver finalement le chemin du travail, comme il le dit. Et par ailleurs, c'est très intéressant, parce que dans la même interview un peu plus loin, il indique qu'il y a plein de personnes qui envoient des CV à qui il n'y a jamais de réponse, qui ne trouvent jamais de travail, à qui on ne répond jamais. Donc d'un côté, il explique que finalement, les gens ne veulent pas travailler et préfèrent profiter du chômage. Et de l'autre côté, mais en fait, il y a plein de gens qui postulent à des emplois et on ne les recrute pas. Mais oui, il y a les deux, certainement. Et je pense que la plus grosse majorité des Françaises et des Français, ils postulent, ils cherchent du travail, ils envoient des CV et ils ne trouvent pas de réponse, ils ne trouvent pas d'emploi, parce qu'il y a aussi une question de, si vous voulez, de quelle formation j'ai et quel emploi je désire et quelle est l'offre d'emploi qui existe aujourd'hui sur le territoire.
Édouard Dorian-Sipel.
Je crois que la question de l'insertion et de la formation sont essentielles. C'est encore une fois le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui va porter ces projets pour permettre justement le retour à l'emploi de beaucoup de Français. On a obtenu des résultats. Il faut maintenant, je crois, continuer de faire le travail et surtout essayer de construire aussi les structures de la croissance de demain. On parle beaucoup de transition énergétique, de transition écologique, de prise en compte des questions climatiques. Je crois que c'est au cœur du projet du président de la République. Moi, si je l'ai soutenu, c'est essentiellement pour cette vision d'autonomie stratégique qu'il propose au pays et à l'Europe, dans un monde compliqué, instable, dangereux, où la force et le fait accompli avec les guerres sont revenus, y compris en Europe ou aux portes dans l'Europe, de l'Europe, avec la question de l'Ukraine. Quand le président de la République nous parle de construire un pays avec une planification énergétique, d'un côté, il vient de confirmer qu'il allait nationaliser à 100% EDF. Ce n'est pas une petite décision. Ce n'est pas une décision d'un homme libéral ou néolibéral. C'est une décision puissante, étatiste, au service de l'intérêt national, qui croit dans l'intervention de l'État, dans l'économie, dans les décisions stratégiques, planification énergétique d'un côté, c'est pas rien la nationalisation d'EDF, c'est un grand projet, et planification aussi écologique pour construire les nouvelles énergies de demain, renouvelables, en dehors des énergies fossiles. Je crois que là-dessus, franchement, sur ce grand projet, qui honnêtement est clairement dans ce que j'appelle un esprit gaullien, doit rassembler une majorité de forces dans le pays, en particulier des forces de progrès. Donc moi, je crois qu'on a une tâche historique à accomplir dans notre génération, pour les générations qui viennent. On a des défis majeurs. Si on est capable dans ce pays de se respecter, majorité d'une part, opposition d'autre part, et si on est capable de mettre la politique aérie de côté, qu'on soit capable d'arrêter avec les enfantillages.
Non, mais est-ce que c'est de la politique aérie quand on dit, par exemple, est-ce qu'on peut profiter des allocations chômage pour réfléchir à sa vie? Mais il y a un vrai débat de société là-dessus.
Moi, je crois que inciter les gens à aller au travail, demander aussi des contreparties, proposer avec la question du RSA quelques heures, parce que c'est ça qui est en question, c'est aussi redonner simplement de l'expérience, un goût et de la confiance à celui qui est éloigné du marché du travail. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une oppression, ce n'est pas une sanction qui viendrait de je ne sais quelle instance morale, c'est une façon d'aider les gens à retrouver confiance en eux, à se réapproprier aussi le monde du travail, le travail socialisé. Et je crois que si ces quelques heures peuvent permettre à quelqu'un à remettre les pieds dans l'étrier, à redonner confiance en lui-même, à se retrouver utile de nouveau et pas simplement un assisté, eh bien je pense que la République fera un grand pas. Moi, je crois que je vois cela de ce côté-là. À chaque fois que des Français ont eu des expériences, ont pu se confronter au monde du travail, eh bien, ils ont plus d'opportunités pour trouver un vrai travail, être autonome, indépendant et ne plus dépendre des aides sociales qui sont là pour venir dans les périodes difficiles de notre vie pour ceux qui ont des conditions sociales plus défavorables que les autres.
Sabrina Sebaï.
Oui, y a plusieurs sujets qui ont été évoqués. Moi, je pense que vraiment, c'est très mal connaître en fait, la vie des chômeurs aujourd'hui que de dire les assistés, ils sont loin de tout. Enfin, quand même, la plupart des gens aujourd'hui qui ne travaillent pas, soit ils sont dans une recherche très active d'emploi, donc ils font des CV, des lettres de motivation, ils vont à des entretiens.
Je sais,
ne sont pas éloignés du monde du travail.
D'accord.
Au contraire, ils sont très actifs.
Et je ne parle même pas.
Je vais terminer. Et je ne parle même pas de tous ceux qui sont bénévoles dans des associations aujourd'hui qui sont extrêmement actives et qui sont donc en pleine. Si vous voulez, peut-être qu'on ne reconnaît pas aujourd'hui le bénévolat dans le milieu associatif. On devrait, c'est une erreur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui y consacrent énormément de temps, des jeunes, des moins jeunes, des retraités, donc qui passent énormément de temps dans les associations. Donc ça,
alors,
déjà,
faut peut-être
c'est
retrouver
vraiment
une autre façon de rétribuer ce bénévolat.
Absolument, mais en fait, c'est au-delà de la question de rétribuer le bénévolat. Quand on demande des contreparties par rapport au RSA, je regrette. Ça s'appelle un mi-temps. En fait, dans ce cas-là, autant salarier les gens et leur dire vous venez travailler pour un mi-temps et on salarie. Dans ce cas-là, on ne parle pas de revenus de minimum social, oui, en fait. C'est quand même assez incroyable d'entendre ça aujourd'hui. Je trouve qu'on a un mépris vis-à-vis des gens qui ne travaillent pas aujourd'hui parce qu'on part du principe qu'ils profitent du système. Je ne suis pas d'accord. À titre personnel, quand j'ai été diplômée, j'ai mis 3 ans avant de trouver mon premier emploi. Je n'étais pas chez moi à me tourner les pouces en attendant que le travail me tombe tout cuit dans le bec. J'ai postulé, j'ai cherché, j'ai fait des entretiens. Donc, en fait, vraiment, je suis sidérée d'entendre ça. J'ai d'ailleurs été bénévole dans des associations. J'ai porté plein de choses au moment où je cherchais du travail. Ça, c'est pour la première chose sur la partie sociale. Sur la question de la transition écologique, enfin, sérieusement. Alors, Emmanuel Macron, ce gouvernement est très habile à faire de la communication. Je rappelle qu'ils ont été condamnés 2 fois pour une action climatique. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas de la politique aérie ou je ne sais pas comment vous avez dit ça. Donc, c'est une réalité. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat. On n'en a rien fait. On a sollicité des gens qui ont travaillé avec sérieux, qui ont fait des propositions. On n'en a absolument rien fait. Il y a la question du nucléaire. Enfin, excusez-moi, on n'arrête pas de nous dire que le nucléaire, c'est l'énergie d'avenir. Enfin, l'EPR de Flamanville, c'est quand même 17 milliards de surcoûts. Aujourd'hui, il n'y a aucune commission d'enquête qui est mise en place pour demander des comptes à des gens qui ont claqué 17 milliards sur un dispositif qui n'est toujours pas en marche, qui a des années de retard. Donc on nous dit que ça va super bien fonctionner. Bah, on attend déjà que l'EPR fonctionne pour le premier. Et puis enfin, sur les modes de consommation, ça a été rappelé avec la question du conflit en Ukraine aujourd'hui. Enfin, on n'est pas dans un changement de modèle. On ne change pas, c'est-à-dire que le président de la République ne nous dit pas on va changer nos modes de consommation, on va sortir des énergies fossiles. Il dit tout simplement, ce que nous ne pouvons pas aller chercher en Russie, on ira le chercher ailleurs. Et d'ailleurs, il a introduit la notion du pétrole comme énergie verte au niveau de l'Union européenne. C'est lui, en tant que président, président française de l'Union européenne, qui a fait cette introduction en disant que, bah oui, finalement, je crois que d'ailleurs qu'il y a le gaz aussi, ce sont des énergies vertes. Donc, comment est-ce qu'on peut se dire fondamentalement écologique, fondamentalement porteur de la transition écologique, quand en fait tout ce qu'on fait va à contre-courant de la transition écologique.
Édouard de Cipel.
Je suis favorable au nucléaire et c'est une très grande ligne de démarcation que j'ai avec les écologistes d'Europe Écologie Les Verts. Et je l'assume. Et je crois que c'est une décision qui relève, si vous voulez, de la réalité qu'est la nôtre. Aujourd'hui, 75% de notre énergie, ça a un petit peu baissé ces dernières années, dépend du nucléaire. Oui,
et c'est dangereux.
C'est une énergie, non.
Mais si, mais,
non,
on
n'a
pas de mix.
La part de risque.
La moitié des réacteurs sont à l'arrêt aujourd'hui.
Non, mais si vous permettez.
Bah, oui, mais c'est une réalité, il faut le dire aussi.
Non, mais la réalité, c'est que le nucléaire nous protège énormément et depuis de nombreuses années.
Non, c'est les énergies renouvelables qui nous
rentrons dans un nouveau cycle. Hein, quand je regarde aujourd'hui l'Allemagne qui fait des mea culpa magistraux, dont on se demande d'ailleurs si on a l'impression que la parole des dirigeants allemands aujourd'hui, s'il est vraiment, elle est réelle compte tenu de leurs décisions passées récentes, qui ont décidé d'arrêter brusquement pour des raisons idéologiques ou politiques le nucléaire et d'aller rouvrir les centrales à charbon, constatent aujourd'hui leur dépendance vis-à-vis du gaz russe à 30% et au charbon russe à 40% et reconnaissent leur erreur stratégique dramatique qui font qu'ils sont dépendants aujourd'hui d'un régime autoritaire et de M. Poutine. Nous avons le nucléaire. On ne reste pas que là-dedans. Oui, il y a un problème avec les déchets nucléaires, mais la technologie est suffisamment aujourd'hui, je crois, sécurisée pour qu'on puisse le faire. La France n'est pas une terre menacée par des risques naturels comme le Japon ou d'autres zones sismiques dangereuses. Nous le savons. Donc, nous cherchons à développer d'autres énergies propres. Hein, c'est une double décision. Continuer le nucléaire pendant les années qui viennent et les 6 réacteurs nouveaux opèrent. Et je rappelle que la grande révolution qui vient avec le nucléaire, aujourd'hui nous dépendons d'un nucléaire, je vais vite, de fission.
Ouais, rapidement.
De fission. Or la grande révolution qui vient, et c'est le projet ITER, hein, où la France elle est partie prenante et c'est en France, le projet ITER qui cherche à développer pour le futur et le long terme le nucléaire de fusion, qui est totalement propre. Donc il faut investir dans les nouvelles technologies, il faut investir dans l'écologie propre et dans les énergies propres, mais il faut quand même qu'on puisse s'appuyer sur le nucléaire. Moi, je ne suis pas pour la révolution et la table rase. Je ne suis pas un révolutionnaire, en l'occurrence. Je suis un évolutionnaire.
Mais voilà,
en matière
de
politique énergétique, je suis un évolutionnaire réaliste et qui pense d'abord à la sécurité de la France en matière d'approvisionnement énergétique.
On parle de transition avec une sortie du nucléaire sur 25 ans, donc on n'est pas des révolutionnaires.
Alors, si vous le voulez bien, on va marquer une courte pause et puis on se retrouve dans un instant pour balayer d'autres thèmes de l'actualité. On verra aussi s'il n'y a pas moyen de vous mettre d'accord à l'Assemblée nationale. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Christophe Pallais.
jusqu'à 19h. Ça fait débat avec Face à Face ce soir, Sabrina Sebaï, députée NUPES pour Europe Écologie Les Verts, et Eduardo Riancipel, qui est porte-parole de Territoires de Progrès pour la majorité présidentielle. Alors, je vous ai promis d'autres sujets. Sandrine Rousseau, elle a pris tout le monde de court en demandant à Éric Coquerel de se mettre en retrait de la présidence de la Commission des Finances de l'Assemblée. Le temps de l'enquête, a-t-elle précisé ? Je vous propose de l'écouter, on en reparle juste après.
Je pense qu'il ne peut pas présider la Commission des Finances, les séances de la Commission des Finances pendant l'enquête. Une fois que cette enquête est réalisée, alors il pourra reprendre son poste de président de la Commission des Finances s'il n'y a rien. Et s'il est mis en examen ou s'il y a une procédure judiciaire, alors il faudra qu'il démissionne. Voilà.
Alors votre position, Sabrina Sebaï, vous êtes d'accord avec Sandrine Rousseau ?
Mais écoutez, Sandrine Rousseau, aujourd'hui, elle porte la position du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Effectivement, aujourd'hui, il y a une enquête qui est ouverte. Donc la mise en retrait est de mise. Bon, j'avais dit qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités tout simplement en attendant que l'enquête se termine. Je pense que ça, c'est de nature à avoir des débats plus sereins au niveau de la Commission des Finances.
Édouard de Riancipel ?
Moi, je suis pour que la justice fasse son travail. Voilà, moi, je demande la démission de personne. Il n'est pas mis en examen. Je suis très gêné de parler de cette affaire parce que je ne sais plus qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Donc, je veux rester simple et la justice qui détermine les culpabilités dans ce pays. Il n'y a aucune raison de ne pas laisser les femmes parler ou les hommes parler lorsqu'ils sont victimes d'agressions sexuelles, de harcèlement, etc. Je crois qu'il faut respecter et permettre et créer les conditions. Créer les conditions pour que les femmes en particulier puissent parler. On sait que ça existe. En revanche, je pense qu'on... Maintenant, voilà, il y a une affaire, il y a une enquête...
Oui, c'est ça, parce que ça fait quand même suite la déclaration de Sandrine Rousseau
l'enquête faire.
À la suite d'une ouverture d'une enquête par le parquet de Paris.
Je pense qu'il faut garder un très grand calme, une grande détermination dans ces affaires. Il faut que la justice puisse se faire, que les victimes puissent parler, que les crimes et les délits puissent être sanctionnés par la justice s'ils ont lieu. Mais je crois d'ailleurs que ça a beaucoup bougé dans la société, mais je ne suis pas pour qu'on tombe dans une situation où on commence à surréagir dans des situations comme celle-là. Restons simples, il y a une enquête maintenant qui est ouverte. Je crois qu'il faut laisser la justice se déterminer. Et puis moi, je demande la démission de personne. Je ne l'ai jamais fait, hein, pour personne, ni dans mon camp, ni dans... sauf que des faits étaient établis et que, voilà, et que c'était intenable.
Mais après, c'est une question qui appartient... On assume de demander la démission de certains ministres, on l'assume complètement. Donc, ouais.
Et donc voilà, donc c'est une question après qui appartient à Sandrine Rousseau, à son parti politique, à la NUPES. Donc voilà, donc je constate aussi que ceux qui ont voulu jouer des jeux à accuser, à demander, etc., à alimenter, etc., à géométrie, quand, pas quand. C'est pour ça que moi, je crois que dans ces affaires, il faut rester extrêmement ferme, extrêmement précis, et laisser la justice travailler.
Parce qu'il faut vraiment dissocier l'affaire de M. Abad de ce dont on parle aujourd'hui. C'est deux choses différentes.
Et je pense vous avez raison. Et d'ailleurs, Abad est sorti du gouvernement.
Oui, mais il y en a d'autres qui devraient suivre pour les propos qu'ils ont tenus ou pour les enquêtes qui ont été ouvertes. Donc,
Ça vous surprend, la position d'Edouard de Riancipel concernant justement cette volonté de ne pas demander la mise en retrait d'Éric Coquerel ?
Non, je ne suis pas tellement surprise. Je pense qu'il y a tellement de cas du côté du gouvernement aujourd'hui qu'il vaut mieux le statu quo pour certains que... qu'essayer d'exprimer des choses. Nous, on est, pour le coup, on a une ligne qui est assez claire et qui n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'on avait dit dès le début qu'à partir du moment où il y aurait une plainte ou une enquête qui serait ouverte, il y aurait forcément un degré supplémentaire de demande vis-à-vis d'Éric Coquerel.
C'était une phrase d'ailleurs de Yannick Jadot pendant la campagne présidentielle qui m'avait un petit peu quand même heurté, porté à interrogation lourde, parce qu'il avait dit que dès qu'il y avait un soupçon, si jamais il était élu président, bon, c'est pas le cas, mais dès que il estimait que dès qu'il y avait un soupçon contre un membre d'un gouvernement, il fallait qu'il démissionne. Enfin, mais où on va ? Si la règle du soupçon généralisé, on a connu des périodes où le soupçon a été une arme politique dévastatrice, je ne suis pas sûr qu'une démocratie ait à gagner quoi que ce soit. Ce que nous devons faire, c'est permettre que les gens, que ces problèmes-là quand même n'existent plus quand même dans des organisations sérieuses. Franchement, agression sexuelle, harcèlement, ça traverse toutes les couches de la société, toutes les strates,
bon, là,
toutes les organisations.
Bon, là, ça ne justifie rien, mais l'affaire remonte à 2014.
Ouais, mais prenons oui, mais prononcez... Voilà, je ne voulais pas en parler.
Mais là, on ne parle pas de soupçons, on parle d'une plainte et d'une enquête qui est ouverte.
Prenons cette affaire-là. Coquerel. La personne qui l'accuse, la jeune femme qui l'accuse, ou la femme qui l'accuse, moi, il me semble que je l'ai entendu dire, et encore une fois, je n'ai pas à juger, Mais je l'ai entendu dire, ah oui, il y a eu un comportement déplacé, mais rien qui relève du judiciaire. Je crois qu'elle a dit ça dans un premier temps. Et quelques jours après, elle avait décidé de porter plainte. Bon, c'est son strict droit. Moi, je n'étais pas là, je ne sais pas, ça ne me regarde pas. En revanche, je souhaite connaître la vérité comme tout le monde. J'espère que la justice pourra donner vite une position là-dessus. Le pire dans ces affaires, c'est les chasses aux sorcières, c'est les rumeurs, c'est l'absence de clarté, de vérité. On a une justice et c'est vrai qu'il y a un problème. Le problème du tabou des violences faites aux femmes, le tabou des agressions sexuelles et des harcèlements que subissent les femmes, y compris dans les partis politiques, y compris parmi des partis politiques ou chez des gens qui prêchent un très grand féminisme, etc. Bon, ça arrive, c'est comme ça. Donc moi, je veux que cette libération de la parole qui me semble positive après l'élan MeToo, qu'on ne tombe pas dans le travers d'une surréaction, que la société fasse son travail, qu'on demande des comptes. Maintenant, la justice, elle est saisie et j'estime que c'est très bien. Elle pourra se déclarer à partir des éléments qu'elle a. On ne peut pas aller plus loin aujourd'hui. Et après, c'est une décision politique. Voilà.
Non, mais on décision parle effectivement d'un sujet qui est extrêmement important. Quand même, les chiffres, c'est qu'une femme sur deux a été victime de violences sexuelles ou sexistes, enfin, en tout cas en France aujourd'hui. Donc, c'est des chiffres sur lesquels on ne peut pas non plus faire comme s'ils n'existaient pas.
Je suis complètement d'accord.
C'est important d'entendre les victimes et donc de permettre à ce que l'enquête se déroule dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, avec une plainte qui a été déposée, une enquête qui est ouverte, je pense que c'est plus sain, en fait, et c'est plus... Enfin, ça permettrait d'avoir des débats plus apaisés, en fait, qu'ils soient en retrait. Personne ne demande sa démission ni quoi que ce soit. Ben. Le temps de l'enquête, en fait, c'est pas du tout la même chose. Par contre, pour certains, effectivement, ministres comme Abad qui ont été accusés de viol, et là, pour le coup, on a fait partie de ceux qui ont demandé sa démission à juste titre. Enfin, il y a quand même une graduation dans les faits. Là, en l'occurrence, on ne parle pas du tout de la même chose. Il y a d'autres ministres aujourd'hui d'Emmanuel Macron qui posent problème sur d'autres propos, mais on ne peut pas dire, enfin, on peut pas balayer ça d'un revers de la main. Pendant des années, les femmes ont souffert de tout ce qui s'est passé. Et effectivement, il y a des femmes qui n'ont jamais osé porter plainte, jamais osé pousser la porte d'un commissariat. Et aujourd'hui encore, c'est extrêmement difficile pour des femmes de porter plainte. L'accueil n'est pas à la hauteur. Souvent, on essaye de leur demander de faire des mains courantes plutôt que des plaintes. Enfin, vraiment, c'est facile. Mais en fait, on essaye d'atténuer les choses. Mais en fait, il y a plein d'autres femmes derrière qui n'oseront pas soit s'ouvrir, soit pousser à la porte d'un commissariat.
Moi, je ne crois pas du tout que c'est l'agitation.
Que ce serait
l'agitation médiatique ou des symboles en demandant que des gens démissionnent alors qu'ils ont des responsabilités politiques, alors que les affaires ne sont pas éclaircies. Je ne crois pas que c'est ça qui va faire avancer le droit des femmes et la question de la lutte contre les violences faites en particulier aux femmes et en particulier les questions d'agression sexuelle. Je ne crois pas du tout que c'est ce genre de phénomène qui va nous aider. Ce qui va nous aider, c'est une prise de conscience générale. L'élan de MeToo l'a permis. Ce sont des politiques concrètes. C'est suffisamment de débats et de prévention, d'information, de pression aussi de la société pour dire qu'il y a des comportements qui ne conviennent pas. Y compris des comportements qui ne sont pas passibles de la justice, mais il y a des comportements qui ne conviennent pas à l'égard des femmes quand on est un homme. Et inversement aussi, mais parlons là du rapport des hommes et des agressions qui sont faites
aux femmes.
Mais
c'est parce qu'on en a parlé aujourd'hui qu'on peut agir, qu'on a avancé.
N'oublie pas, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. Hein. La France, c'est 900 homicides par an, en moyenne, depuis plusieurs années. Mais parmi ces 900 homicides, c'est environ 130-120 femmes qui sont tuées tous les ans par leur conjoint. Et c'est une femme tuée par son conjoint tous les trois jours. Mmh. C'est suffisamment choquant. Je ne parle même pas des affaires de violences faites aux femmes, etc., qui sont multiples, qui traversent tous les milieux sociaux. Donc ça, oui, il faut en finir. Mais je ne crois pas qu'une agitation hors des cadres de la justice nous permettra de faire quoi que ce soit. Après, c'est la responsabilité politique.
Sandrine Rousseau demande qu'il se mette à l'écart,
c'est sa position, je la respecte. Ce n'est pas du tout la mienne. Et ne serait-ce que pour une raison simple aussi. Derrière, ça peut enchaîner des tas de formes de manipulation qui pourrait nuire à tout le monde. On pourrait avoir des puissances étrangères qui manipulent, qui lancent des accusations à tout va, qu'on fasse tomber des postes, etc., sur de simples accusations ou sur la rumeur publique.
Mais déjà, le fait de dire ça, c'est décrédibiliser la parole des femmes. Mais en tout cas,
il faut protéger les femmes pour qu'elles puissent parler.
C'était la grande cause du quinquennat précédent. Emmanuel Macron s'était engagé. On attend toujours
le
fameux milliard qui serait mis en place pour la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce n'est toujours pas le cas. Je suis désolée, encore une fois, ce gouvernement est dans des opérations de communication et de marketing, mais en réalité, dans les actes, on attend toujours. Vous savez, les fameuses places qui avaient été créées pour les femmes, justement, qui devaient quitter leur conjoint parce qu'elles étaient victimes de violences, on n'a pas créé de places supplémentaires d'hébergement. On a pris dans les places d'hébergement du 115. Donc, en réalité, on est vraiment dans des opérations de communication en disant on a créé des places, on a créé, etc. On n'a rien créé du tout. Mmh. On a pris dans l'existant et en fait, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Enfin, voilà, c'est ça la réalité.
Je prends un autre exemple pour dire qu'on ne peut pas non plus.
Dernier exemple et puis on passe à un autre sujet après.
L'exemple, c'est à Abouaf, qui a quand même posé un problème à la NUPES et à la France Insoumise à un moment donné. Mmh. Et les femmes, elles ne veulent pas parler, elles ne veulent pas déposer plainte. On fait quoi? Bon, bah, personne ne peut les forcer. Donc là, donc ça aussi, vous voyez qu'on est dans des situations extrêmement complexes. Donc moi,
et
je
ça,
préfère.
C'est des choix politiques. La cellule d'enquête de la France Insoumise a pris une décision politique.
Moi, je n'interviens pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après les discours ou le discours sur les décisions, c'est autre chose. J'observe qu'on nous a fait savoir que les femmes ne voulaient pas. En revanche, intéressant et bienvenu dans cette affaire autour de M. Coquerette, c'est qu'au moins la justice est ici. Donc on va savoir vite la vérité. Et à ce moment-là, tout le monde pourra se faire une idée et demander je ne sais trop quoi ou rien du tout d'ailleurs. Mais voilà, restons sur les principes les plus fondamentaux et mettons les choses sur la table pour que créer les conditions effectivement d'améliorer la question de la lutte contre les violences faites aux femmes en particulier.
On clôt chapitre, Sabrina Saïbaï, vous êtes d'accord?
Écoutez, on espère que ce quinquennat sera mieux que le précédent sur cette question-là et on attend la Première ministre sur la question, sur d'autres questions qui vont arriver, sur la question bien sûr des violences faites aux femmes, la question de l'IVG puisque c'est arrivé aussi dans le débat politique dernièrement. Enfin, vous verrez, il y a plein de sujets. On espère que le gouvernement sera à la hauteur puisqu'il n'a pas été... ce qui n'a pas été le cas ces 5 dernières années.
Je rappelle quand même que pour le coup, la Première ministre est une femme. C'est
pas
la deuxième de l'histoire de la...
Hein.
Peut-être, mais je crois connaître bien Elisabeth Borne sur ce plan. C'est une véritable combattante des droits, et notamment des droits des femmes. Je crois que là, pour le coup, on a un point d'appui magistral à Matignon pour mener ces combats. Et vous trouverez tout appui, me semble-t-il, pour mener... aussi dans le même sens les choses.
Alors, autre affaire qui fait débat, les propos de la ministre des Collectivités Territoriales, Caroline Cayeux, qui a critiqué l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Elle a dit que c'était un dessein contre la nature. Elle s'en est expliquée 8 ans après avoir fait ses déclarations, de façon un peu maladroite cette semaine. Elle a depuis formulé des excuses. Je ne sais pas si on peut écouter Adrien Quatennens. On essaye? Eh bien, on écoute Adrien Quatennens.
Ça me convainc d'autant moins, si vous voulez, qu'il y a quelques jours, quand la question lui est reposée sur un plateau, elle, en quelque sorte, elle confirme ses propos. Puis après, elle dit « j'ai des amis chez ces gens-là », ce qui est un peu étrange aussi. C'est à coup sûr une erreur de casting, je veux dire, d'une part, et puis ça ne satisfait pas, puisque même toute relative, la minorité présidentielle, ont signé un texte pour demander son retrait.
Donc c'est un peu étrange, dit Adrien Quatennens. Écoutez maintenant Marlène Schiappa, qui s'est également exprimée sur ce sujet, sur cette affaire.
C'est pas à moi de dire si j'accepte ces excuses, je pense que c'est aux personnes concernées de dire si elles les acceptent. Et maintenant, en tant que ministre chargée des collectivités territoriales, Caroline Cayeux a beaucoup de leviers pour soutenir la cause. Elle a beaucoup de leviers, donc je pense que maintenant, des paroles, il faudra passer aux actes.
Alors, Caroline Cayeux doit-elle quitter le gouvernement? Sabrina Sebaï.
Bien oui. Moi, pour le coup, elle fait partie des ministres effectivement dont on a demandé la démission. Je trouve que les paroles, les propos qui ont été tenus sont inadmissibles. Il a fallu attendre des plaintes d'associations de lutte justement contre l'homophobie pour qu'elle s'excuse finalement des propos qu'elle a tenus. Ça a été très compliqué, je pense, ce cheminement. Après, ce que ça dénote quand même, c'est qu'on a eu un président de la République qui était aux abois pour constituer son gouvernement, qu'il a été cherché un peu partout, y compris le plus à droite possible, les réactionnaires. Des gens qui ont été nommés ministres aujourd'hui dans ce gouvernement. Et franchement, aller dire « oui, j'ai des amis dans ces gens-là », qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est vraiment le fait d'avoir des amis qui sont LGBT ou autres, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas homophobe, en réalité. C'est vraiment ça, le cœur du propos. Et je ne suis pas certaine que des excuses seront suffisantes, parce qu'elle le fait sous la pression. Est-ce qu'elles sont sincères, même, ces excuses? Je n'en sais rien.
Question, Édouard Dorian Cipel. Ces excuses sont-elles sincères, d'après vous?
Oui, je le crois et je le souhaite.
Comment vous expliquez ce dérapage, on va dire?
Moi, je n'ai pas du tout apprécié cette prise de parole de Madame Cayeux à ce moment-là. J'avais, je le rappelle, combattu tous ces gens de la MAFTIS pour tous, si vous me permettez, puisque moi j'étais député, j'ai voté le mariage pour tous, le mariage homosexuel, je l'ai voté, je l'ai défendu et j'ai entendu toutes les horreurs qu'on a pu entendre à ce moment-là. et ses propos à l'époque de Madame Cailleux, d'ailleurs ils sont erronés, hein, contre nature, qu'est-ce que ça veut dire ? L'homme n'est pas un être naturel, notre humanité elle est justement dans notre être social.
Là on va vous plonger dans la philosophie que voilà, vous aimez.
Donc, voilà, mais je vous en épargne davantage.
Non, non, j'ai rien dit.
Mais je pense que précisément, voilà, nous sommes des êtres sociaux, nous ne sommes pas des êtres uniquement conduits par nos instincts naturels, et je pense même que certains éthologues pourraient nous montrer qu'il y a chez quelques espèces animales, ici ou là, des pratiques dites homosexuelles entre individus
éthologues
de même sexe.
Traduisez quand même pour nos auditeurs.
Ce sont ceux qui étudient les animaux, éthologues de éthos, voilà. Hein, donc le comportement animal. Voilà. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, elle a demandé des excuses. J'ai pu aussi me sentir blessé par ses propos. J'ai entendu aussi Clément Beaune parler avec beaucoup d'affection et de sincérité, dire qu'il n'était pas du tout d'accord. Et rappeler une chose simple, hein, c'est la ligne du président de la République, le progrès, les droits, la lutte contre toutes les formes de discrimination et en particulier les discriminations à l'égard de tous les... pour raison du sexe, du genre ou de tout ce qu'on voudra. Et je crois que c'est cette ligne-là qui est importante à retenir. Et si Mme Cailleux reste au gouvernement, c'est que donc elle signe cette ligne-là, et c'est ce qui compte. Et on a aussi, encore une fois, avec Elisabeth Borne, une première ministre très attachée à ces questions, qui sera un pilier de la défense de ces questions, je crois, devant le Parlement en particulier. Et il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Donc,
vous voulez croire à la maladresse ?
Je pense qu'il y a une part de maladresse dans cette expression « ces gens-là », qui peut marquer un mépris, qui peut marquer une espèce de... Oui, très, je pense que, voilà, parfois, ce que je retiens aussi, c'est qu'elle s'est excusée. Je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas la prendre pour avec la sincérité qui convient. Tout le monde peut caler sur l'expression tôt ou tard.
J'observe qu'elle se serait excusée avant les plaintes, on aurait moins mis en doute sa sincérité sur ses propos.
Non, mais je ne crois pas qu'il y ait simplement des questions de place. Je pense qu'à un moment donné,
il y a
une question politique
qui
est beaucoup plus importante, une pression politique, c'est-à-dire un gouvernement avec un président et une première ministre sont clairement sur une position. Madame Cailleux semblait dévier un petit peu avec un langage,
un petit peu, ce sont des propos extrêmement graves.
Enfin, voilà, c'est des propos qui pourraient être poursuivis aussi,
mais bien
non
évidemment, enfin, franchement, c'est pas,
je ne suis pas
propos
magistrat,
malheureux.
Voilà. C'est... Je ne suis pas magistrat, je ne juge ni des agressions sexuelles supposées, ni des diffamations supposées, laissons au juge.
Bah, écoutez, il y a plusieurs associations qui ont porté plainte, donc
bien.
On verra, la justice fera son travail. Mais en tout cas, s'ils ont porté plainte, c'est qu'eux, ils ont jugé qu'il y avait matière à porter plainte pour les propos qu'elle a tenus. Je ne pense pas qu'on puisse parler de maladresse, en tout cas quand on est à ce niveau de responsabilité. Ministre, c'est quand même pas rien. On est censé quand même faire attention à ce qu'on dit. A minima, même si on ne le pense pas, parce que je pense que fondamentalement, au vu des propos qu'elle a tenus dans le passé, parce que c'est pas nouveau, elle avait déjà tenu plusieurs fois des propos qui étaient au moment du mariage pour tous, les manifs mariage pour tous, donc c'est pas nouveau. Je pense qu'à minima, elle aurait pu faire effectivement très attention aux mots qu'elle a employés, ce qui n'a pas été le cas. Et encore une fois, je le redis, elle s'est excusée elle a fait une émission de télé où elle a tenu des propos qui ont donné lieu à cette polémique. Elle s'est excusée sur un tweet. Enfin, voilà, c'est aussi ça. Je pense qu'à minima, c'était de refaire une émission, d'expliquer pourquoi elle a tenu ses propos et pourquoi peut-être elle le regrette et ses excuses. Ça aurait été un minimum beaucoup plus respectueux qu'un simple 140 caractères sur un tweet pour s'excuser.
Je pense que c'est bien. Voilà, on dit qu'on est désolé, qu'on a déconné, quoi, et on essaye de passer à autre chose. En revanche, on peut tout à fait demander des comptes au gouvernement sur la politique qu'il va mener pour améliorer les choses en la matière. Ça, pour le coup, je trouve que c'est utile. Que tout le monde soit vigilant, que tout le monde ait conscience que ces discriminations-là doivent cesser et qu'il faut un effort permanent de la société pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Donc franchement, quand on entend un certain nombre de propos et d'actions violentes contre des personnes qui sont homosexuelles, disons-le, eh bien, c'est d'une tristesse et d'une gravité absolue. C'est pas possible. Comme le racisme, comme toutes les formes de discrimination. Donc moi, ce que j'apprécie, c'est que dans ce gouvernement, il y a tout. Il y a des gens qui ont eu des positions passées sur ces sujets. Et ce qu'on peut peut-être maintenant comprendre comme un gros point positif, c'est qu'il y a certaines réformes, certains droits nouveaux qui deviennent des acquis de la société et pour toujours. Le mariage pour tous et le mariage homosexuel aujourd'hui est un acquis de la société française inaliénable et personne ne reviendra dessus. Et ça, je pense que au-delà de toutes les polémiques actuelles, c'est ça qu'on doit retenir. C'est vraiment le fait que c'est un acquis, et comme d'autres acquis nouveaux, ou comme d'autres droits nouveaux, conquêtes nouvelles, je pense qu'on peut faire des conquêtes pour le droit et pour les libertés. la période en vaut la peine.
Je pense que c'est là où on a une différence fondamentale, c'est qu'on ne construit pas un gouvernement avec des idées diamétralement opposées, mais bien sur une colonne vertébrale politique et des idées.
C'était la suite et sans doute la fin que je voulais vous proposer. Comment est-ce que vous pouvez réussir à travailler ensemble à l'Assemblée nationale ? Cette semaine, il y a le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui va commencer à être examiné. Quel pas allez-vous faire, Sabrina Sebaï?
Nous, de notre côté, on a fait une proposition de loi sur le pouvoir d'achat, justement, avec des propositions assez fortes, donc notamment la question du SMIC, la question de la TVA 5,5 sur les transports collectifs, sur la rénovation des logements, sur la taxation des grands profits dans ce pays, comme c'est déjà le cas dans certains pays européens. Donc, vous voyez, nous, on a des propositions concrètes. Toutes ces propositions seront proposées en termes d'amendements sur le texte qui est proposé aujourd'hui, le projet de loi du gouvernement. Malheureusement, ce qu'on constate pour le moment, c'est que tous les amendements qui ont un caractère de transition écologique ont été rejetés, déclarés irrecevables par l'Assemblée nationale, ce qui est dommage, donc on ne pourra même pas en débattre. Donc ça nous questionne aussi sur la volonté réelle du gouvernement d'avancer sur la question de la transition énergétique. Et pour nous, nous n'acceptons pas, y compris d'ailleurs dans les éléments de langage qui sont utilisés par le gouvernement, de se dire « nous allons limiter la baisse du pouvoir d'achat ». Nous, ce n'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il faut des mesures d'urgence tout de suite pour répondre à la crise et à l'inflation que connaissent les Français, puis travailler sur le moyen long terme, effectivement, pour non pas limiter la baisse du pouvoir d'achat, mais pour éviter la baisse du pouvoir d'achat et même l'augmenter pour les Français.
Eduardo Riancipel, est-ce que c'est possible d'accepter certains amendements de la NUPES sur ce projet de loi du pouvoir d'achat ?
Bien entendu, pourquoi les refuser a priori ? Vous savez, on ignore l'essentiel du travail parlementaire. La majorité des textes, les Français l'ignorent, je le rappelle. La majorité des textes qui sont votés par l'Assemblée nationale comme le Sénat, l'essentiel est amendé par les députés. Majorité comme opposition. La vérité du travail législatif et donc la loi concrète qui sort des assemblées, de l'Assemblée et du Sénat, sont des lois qui sont essentiellement, pour la plupart, travaillées à grande majorité et amendées par l'opposition comme par la majorité. Donc, en dehors des grands sujets symboliques, etc., la vérité de la loi, c'est qu'elle est essentiellement travaillée par les parlementaires, majorité comme opposition. Je peux rappeler simplement une chose simple.
Rapidement.
De notre côté, il y a la disponibilité politique. Il y a une réalité politique, c'est la majorité relative. Il monte une quarantaine de députés pour assurer une majorité absolue. Nous sommes dans la disponibilité politique. On va aller chercher les compromis texte par texte, point par point, amendement par amendement. Et on verra comment
on verra notamment
évolue.
Si vous acceptez ou pas ces amendements. Un grand merci à tous les deux d'avoir pris part à ce débat avec beaucoup de tenue, je dois le dire. C'était pas une bataille de chiffonniers comme on l'entend parfois. À suivre dans un instant sur Europe 1, le journal de 19h avec François-Xavier Lambert. Et puis nous parlerons lecture de vacances. Est-il vrai qu'on lit plus l'été ? Nous vous partagerons nos coups de cœur pour cet été avec des libraires et avec l'auteur de best-seller, Michel Bussy.